Tout d'abord, je tiens à remercier Bernard Meunier pour son invitation. Et puis, c'est un immense plaisir pour moi qui... Alors, en fait, j'ai déménagé de Sainte-Anne à Jussieu. Donc, je me suis rapproché quand même de vous. Mais il n'y a pas encore si longtemps, il y a une dizaine d'années, j'étais dans ces murs. J'ai quand même travaillé pendant près de 20 ans dans la chaire de Jacques Glowinski, ici au Collège de France. Donc, c'est un immense plaisir de retrouver... d'une part, un certain nombre de visages connus et d'autre part, un lieu qui est pour moi aussi chargé d'émotions. Alors, je ne vais pas avoir la prétention, malheureusement, Bernard, de vous parler de toute la thérapie cellulaire parce que ça serait un cours entier qu'il faudrait faire. Je vais essayer de vous parler de ce que je connais le moins mal, c'est-à-dire le système nerveux. Et j'ai eu la curiosité, en préparant ce cours, de regarder actuellement, en thérapie cellulaire, le nombre d'essais cliniques en cours que vous pouvez trouver sur Clinical Trials, qui est un site du gouvernement américain. Il y a actuellement en ouvert 480 essais cliniques de thérapie cellulaire dans le système nerveux central. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre en balance ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on voit dans un certain nombre de journaux. Parce que je crois qu'il faut être très enthousiaste. Et moi, je pense que tous les biologistes que nous sommes, d'une façon générale, tous les scientifiques que nous sommes, on a une grande chance de vivre aujourd'hui. Mais pour la biologie, c'est vraiment un moment merveilleux parce que c'est le moment des révolutions et des outils. Et il est clair qu'on est dans le siècle de la biologie. Est-ce que pour autant, on peut faire tout ? Alors, on a cette vision de prométhéenne de l'infinie réparation des corps. Vous vous souvenez que Prométhée, en dehors de donner le feu aux hommes, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait collecté tous les maux de la terre et qu'il les avait enfermés dans une jarre. Prométhée, c'est celui qui pense avant, Prométhée. Et puis Zeus, pour avoir donné le feu aux hommes, l'a condamné. Et il avait dit à son frère Épiméthée, celui qui pense après, surtout quel que soit le cadeau que te fait Zeus, tu ne touches pas à la maison et tu ne touches pas à la jarre qui est là. Alors Zeus convoque tous les dieux, crée la femme douée de tous les dons, Pandora, et évidemment Épiméthée en est amoureux, il l'épouse, elle arrive chez lui, elle range un peu la maison. Et elle tombe sur la jarre qu'elle rouvre et elle répand de nouveau sur la terre tous les maux que Prométhée avait retirés. Est-ce que cette vision qu'on pourrait aujourd'hui, grâce aux cellules souches, régénérer, remplacer éternellement les corps est réellement possible ? On va voir tout à l'heure que dans le système nerveux, il ne suffit pas de faire des cellules. Déjà, si on est capable de les faire, c'est extraordinaire. Mais il faut aussi faire des réseaux. Une cellule nerveuse, il ne suffit pas qu'elle survive, il faut aussi qu'elle connecte les cellules qui lui fournissent les informations et qu'elle transmette les bonnes informations. Bernard Meunier a parlé de la maladie de Parkinson tout à l'heure. La maladie de Parkinson, c'est la dégénérescence de neurones dopaminergiques. Effectivement, aujourd'hui, on est capable de faire, dans un tube à essai, des neurones dopaminergiques. Encore faut-il que ces neurones dopaminergiques survivent, et ils sont extrêmement fragiles parce que les mécanismes par lesquels on produit la dopamine sont des mécanismes qui sont associés à des mécanismes d'oxydation du fer. Toutes nos cellules sont bourrées de fer et d'oxygène. Ça fait une oxydation terrible. C'est pour ça, d'ailleurs, que les neurones dopaminergiques dégénèrent les premiers à cause d'un excès de réactions oxydatives. Ces cellules, elles sont normalement dans la substance noire. C'est une substance qui est à la base du cerveau. Et elles envoient leur prolongement dans le striatum, qui est une région qui est au centre du cerveau. Entre la substance noire et le striatum, il y a environ 1 cm chez un homme, un être humain normal, homme ou femme. Pour un neurone dont le corps fait 10 microns, 1 cm, c'est envoyer son axone à 100 fois la distance de son corps. Comment on trouve, dans un circuit construit, dans une architecture déjà construite chez un patient adulte, souvent âgé, mais de toute façon adulte, comment on trouve son chemin pour franchir cette distance ? Comment on le fait quand, on parlait des des dystrophies, où on parlait de dégénérescence spinale, comme on le fait quand on veut greffer un motoneurone chez des personnes lésées au niveau de la moelle. On veut greffer un motoneurone qui, lui, va avoir à envoyer son axone à un mètre de distance pour reconstituer la motricité de la jambe. Ce sont des problèmes qui, aujourd'hui, sont des problèmes façonnants. Et puis, on va voir tout à l'heure qu'on a découvert, avec Yamanaka, la possibilité de reprogrammer des cellules. Et ça, c'est un bouleversement qui est un bouleversement non seulement biologique, mais un bouleversement culturel. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a une dizaine d'années, le temps et le temps biologique, c'était le temps oedipien. Qu'est-ce qui va à quatre pattes le matin? Quel est l'animal qui va à quatre pattes le matin, à deux pattes à midi et à trois pattes le soir? C'est l'énigme du sphinx. Avec la reprogrammation cellulaire, on ne sait plus quand l'homme a quatre pattes, quand l'homme a deux pattes et quand l'homme a trois pattes, parce qu'on bouleverse les systèmes du temps. Et on se rend compte que l'épigénèse vient ajouter une dimension d'une complexité, d'une ouverture sur l'environnement qui va complètement bouleverser la donne. Et c'est un peu sur ces questions-là que je vais essayer de vous présenter quelques données, en m'appuyant sur quelques données du laboratoire, quelques réflexions. Et puis, c'est vrai qu'on a des convergences aujourd'hui parce que ce qu'on peut apprendre dans le champ des maladies qui sont neurodégénératives et non pas neurodégénératives, dans le plan de la génétique ou du cancer, deviennent très floues à partir du moment où on se rend compte que c'est la dynamique des génomes en interaction avec le micro-environnement qui est en cause et qui, dans certains cas, peut donner de l'inflammation, dans d'autres cas, peut donner une dégénérescence. C'est des mécanismes qui convergent les uns vers les autres et qui se renseignent, qui permettent d'apprendre les uns et les autres. Et puis on verra si on a le temps à la fin, il faudrait que je ne sois pas trop long, si on peut mettre en balance nos libertés fondamentales, c'est-à-dire d'un côté la liberté de connaissance, la liberté de promouvoir la recherche, mis à mal par certaines visions de ce que sont certaines cellules, et de l'autre côté, la protection des droits de l'individu ou la protection de certaines valeurs de la société. Alors, posons le schéma général. On a découvert au cours des 30 dernières années, 40 dernières années même, que chacun de nos organes adultes contenait aussi un certain nombre de molécules capables de régénérer cet organe. Vous changez de tube digestif tous les 8 jours. Les 8 mètres de votre intestin se renouvellent à peu près tous les 8 jours. Ce qui veut dire qu'une cellule souche de la crypte colique qui vous est représentée ici, au cours de la vie d'un individu, la cellule souche qui est localisée quelque part par là, au fond de la crypte, va produire 1 million de milliards de cellules. 1 million de milliards de cellules au cours de la vie d'un individu. Vous êtes en train de changer de sang de façon régulière. Vos globules rouges durent 3 mois, mais vos globules blancs ne durent qu'un jour. C'est pour ça que j'incite tous les moins de 50 ans à non seulement être donneur de sang, mais surtout donneur de plaquettes qui ne vivent que 10 jours et donneur de globules blancs. C'est beaucoup plus difficile, mais ça permet la survie de patients parce que ces traitements, soit à base de moelle osseuse, soit à base de produits que sont les globules rouges, la transfusion sanguine, ou transfusion de plaquettes, ou transfusion de globules blancs, depuis 50 ans, sauvent des vies humaines au quotidien. Donc, la thérapie cellulaire, elle n'a pas attendu les cellules souches pour exister, à partir de dérivés du sang, puis, depuis Eliane Gluckman, l'hôpital Saint-Louis, et plus de 40 ans, les greffes de moelle. Alors, dans le système nerveux, c'est beaucoup plus récent. Et c'est même tellement récent qu'il y a quand même très peu d'exemples. Aujourd'hui, les données peut-être les moins controversées concernent des études et des études préliminaires qui portent sur des cellules issues de la moelle osseuse, qu'on appelle les cellules CD34+, donc c'est les précurseurs des dérivés sanguins. Et ces cellules 34+, injectées en intracérébral, par voie cathétère en général, dans le contexte d'un infarctus cérébral, dans le contexte d'un accident vasculaire cérébral. Ce sont des essais qui sont non randomisés, ça veut dire ils sont faits sur des patients choisis. Ce sont des essais aujourd'hui de tolérance, c'est-à-dire il n'y a pas de double aveugle, on ne cherche pas à savoir si c'est mieux avec ou sans. Et donc aujourd'hui, ces essais qui sont en cours ne donnent que des résultats de tolérance. On ne fait pas perdre de chance aux patients en utilisant ces techniques. Est-ce que ça permet d'améliorer le pronostic de l'accident vasculaire cérébral? En l'état actuel des choses, alors que plusieurs dizaines d'essais ont déjà été faits, on n'en sait rien. Les essais en double aveugle n'ont pas été commencés. Et à côté de ça, vous avez des myriades de sociétés en Inde, par exemple, vous les trouverez sur Internet, ou dans les ex-républiques soviétiques, qui, à la place de l'ancien sérum de Bogomolets, proposent l'injection de cellules CD34+, dans l'infarctus du myocarde, dans un accident, dans les séquelles d'un accident vasculaire cérébral, y compris plusieurs mois, voire années après l'accident vasculaire cérébral, c'est totalement charlatanesque et il faut s'en prémunir. On sait que dans la peau, il existe quelques dérivés de ce qu'on appelle en embryogénèse la crête neurale et donc on peut produire des cellules souches neurales à partir de cellules de peau. Aujourd'hui, il y a une piste qui est beaucoup explorée, qui est les dents. Vous avez quelques cellules, là encore dérivées de progéniteurs neuraux, qui peuvent être utilisées, en tout cas au laboratoire, pour donner des neurones. Et puis, bien sûr, du tissu nerveux. On va y revenir. Encore une fois, sur les 480 essais cliniques actuellement ouverts et qui concernent soit les accidents vasculaires cérébraux, et dans les accidents vasculaires cérébraux, j'ai oublié de dire que ces cellules, si elles font quelque chose, ce n'est pas de refaire des nouveaux neurones. Là, vous avez un schéma de neurones. L'idée de ces cellules, ce n'est pas de refaire des nouveaux neurones, c'est plutôt de diminuer l'inflammation ou de permettre à des cellules souches neurales existantes, résidentes dans le système nerveux, de redémarrer et de régénérer une partie du tissu. Donc, c'est plutôt un effet protecteur et trophique sur les cellules existantes que réellement une cellule existante. Alors pourquoi ? Eh bien parce que je vous ai parlé des cellules souches du côlon. Quand on prend les cellules souches neurales d'un cerveau adulte, et bien sûr 200 milliards de cellules que constitue un cerveau adulte, les cellules souches neurales, c'est quelques milliers de cellules. Quelques milliers de cellules. Et je vous ai dit que dans la vie d'un individu, les cellules souches de la crypte faisaient 1 million de milliards de cellules. Dans la vie d'un individu, les cellules souches neurales font peut-être maximum 10 000 cellules. Et ce ne sont en général pas des neurones. Chez la souris, ce sont des neurones, mais chez l'homme, c'est probablement 9, dans 9 cas sur 10 des cellules gliales, en particulier des oligodendrocytes. Et dans 1 cas sur 10, des cellules neurales. Ceci étant, c'est important parce que l'apparition de nouveaux neurones dans des régions comme l'hippocampe, des régions impliquées dans la mémoire, même si c'est très peu de cellules, moins d'une cellule pour 1 million, c'est essentiel à la capacité de mettre en mémoire, c'est essentiel à l'humeur. Les gens qui ont des dépressions graves ne fabriquent plus de cellules souches au niveau de l'hippocampe, et l'effet thérapeutique des molécules antidépressives est associé à la réapparition de la possibilité de produire des cellules souches neurales. Donc, même si c'est très, très peu de cellules, leur rôle est très, très important, en tout cas dans la capacité de faire des souvenirs et de la mémoire, probablement parce qu'un neurone, bon, c'est une cellule, mais c'est 50 000 à 500 1000 contacts. C'est une arborisation, tout particulièrement dans l'hippocampe, c'est une arborisation terrible. Donc, voilà où on en est aujourd'hui sur ces cellules souches somatiques. Pour revenir au système nerveux, très peu de cellules. Nous ne savons pas aller les chercher parce qu'elles sont enfouies très profondément au centre du cerveau, le long des ventricules, ou elles sont au niveau de l'hippocampe, et ça, il faudrait détruire l'hippocampe, donc faire beaucoup plus de mal que de bien pour aller les chercher. Et aujourd'hui, ces cellules souches adultes, nous ne savons pas les amplifier, on ne sait pas les faire se multiplier. On peut utiliser des cellules neurales fœtales, qui peuvent être obtenues, par exemple, dans les suites d'une interruption volontaire de grossesse. Ce sont des cellules qui ont déjà été utilisées il y a près de 30 ans pour essayer de greffer des cellules fœtales dans le contexte de la maladie de Parkinson. Ces cellules, à l'époque, ne survivaient pas et surtout ne donnaient pas de neurones dopaminergiques. Aujourd'hui, il y a des essais en cours pour essayer de réparer des traumatismes de la moelle épinière. J'ai marqué ici les deux biotech qui ont obtenu les droits de mener ces essais à partir de cellules neurales fœtales. Ces essais n'ont même pas encore inclus leurs premiers patients. C'est juste des autorisations qui ont été données dans des contextes de traumatisme de la moelle épinière. Alors, c'est pour ces raisons, très peu de cellules, très difficile à obtenir, impossible de les faire s'amplifier, qu'on a été chercher, on s'est intéressé depuis près de 15 ans maintenant, ou près de 20 ans, on va approcher, aux cellules souches embryonnaires. Cellules souches embryonnaires, je vous rappelle qu'on les obtient à partir d'un embryon qui est en général âgé de 5 jours, en prélevant cette partie ici de l'embryon qui s'appelle la masse cellulaire interne, c'est-à-dire la partie des cellules qui donnera l'ensemble des cellules du corps de l'individu. Les cellules ici de ce que vous voyez, cette coque de cette espèce de framboise, donnant ce qu'on appelle dans notre jargon les annexes, c'est-à-dire le placenta, le trophoblaste, le liquide amniotique. Alors, une fois que ces cellules sont retirées ici, eh bien, elles ne sont plus capables que de faire des cellules. Ce sont des cellules qui donnent d'autres cellules, mais qu'on a appris au cours des années à orienter dans une différenciation, puisque là, elles n'ont aucune différenciation. Elles sont souches au sens naïf. Elles ne sont juste capables que de faire d'autres cellules leur ressemblant. Eh bien, on est capable de les orienter vers différents phénotypes. Et je vous ai rappelé que pour avoir le droit de prélever ces cellules et de pouvoir les étudier ou d'en dériver des cellules, il faut l'une de ces trois conditions, c'est-à-dire ou qu'il s'agisse d'embryons surnuméraires qui ont été produits dans le contexte d'une fécondation in vitro, mais qui ne font plus l'objet d'un projet parental, bien sûr avec le consentement des parents, bien sûr avec un agrément de l'Agence de la biomédecine, ou ce sont des embryons qui ont été écartés du parcours de la fécondation parce qu'ils ont été considérés par les spécialistes de la fécondation in vitro comme impropres à être implantés dans l'utérus de la future mère. Ou enfin, ce sont des embryons qui ont été écartés au cours de ce qu'on appelle le DPI, diagnostic pré-implantatoire, dans un contexte de maladie d'une particulière gravité. Il s'agit de maladies pour lesquelles l'enfant ne sera pas viable ou mourra dans les heures ou jours qui suivent la naissance, on a le droit de rechercher l'anomalie génétique en prélevant au stade 8 cellules, qui n'est pas représenté ici, au stade 8 cellules, on prélève deux des cellules de l'embryon et on les analyse au niveau génétique pour voir s'ils sont porteurs de l'anomalie. Par exemple, dans certaines maladies du sang, certaines anémies, on a le droit de faire ce diagnostic préimplantatoire. Si l'embryon est porteur de l'anomalie, il ne sera pas implanté. S'il est indemne, on laissera continuer le développement, il sera implanté chez la future mère, en espérant que ce soit une future mère. Ces embryons écartés du DPI peuvent être utilisés pour la recherche. Ce sont des cellules souches embryonnaires orientées vers la différenciation neurale qui ont fait l'objet des essais cliniques, encore une fois, dans les traumatismes de la moelle épinière, qui ont été lancés par la société Géron et abandonnés en 2011 pour des raisons tout à la fois financières et d'inefficacité, et qui sont repris là par une biotech qui s'appelle Asteria, qui est en fait une biotech formée par les anciens patrons de Géron et qui a réussi à lever des fonds. Il faut voir qu'un essai clinique de ce type-là, pour arriver à le mener à bien, il faut avoir devant soi environ une centaine de millions de dollars. On ne peut pas commencer à envisager un essai clinique avec une dizaine de patients pour des traumatismes de la moelle épinière à partir de cellules souches sans avoir devant soi des montants de cet ordre. Alors, on est capable aussi de... si on a le temps à la fin de répondre à la question, je ne vais pas rentrer dans la question des querelles de l'embryon et dans la question d'une discussion éthique autour de l'embryon, parce qu'il faudrait y consacrer des heures et que vous avez des milliers de pages et des milliers d'heures de débat qui y sont consacrées. Je vais simplement dire qu'une des critiques qui avait été faite, c'était qu'on portait atteinte, potentiellement, c'est ce que Anne Fagot-Largeau, dans ses cours ici, appelle les dignitaristes, on porterait atteinte à la potentialité humaine d'un embryon. Ça serait des Mozart qu'on assassinerait. Je vous rappelle que dans les conditions de nature, il y a moins d'un embryon sur sept qui s'implante, un embryon fécondé sur sept qu'on implante. C'est des carnages quotidiens qui se passent dans nos villes et de nos campagnes. Combien de Mozart et quel fracas assourdissant on aurait si la sélection naturelle ne s'exerçait pas. Mais une façon de contourner les choses, ça a été de proposer le transfert nucléaire. Dans ce cas-là, il n'y a plus de fécondation. Est-ce qu'on peut encore parler d'un embryon ? Les tenants de cette philosophie ont dit comme ça, on s'exclut de ça. C'est intéressant parce que pendant des années, ça a donné lieu ou à des rêves ou à des fraudes, la fameuse fraude du professeur Wang en Corée du Sud. Ce n'était pas possible. On pouvait le faire dans bien des animaux. C'est la méthode qui est utilisée pour cloner, hein, le transfert de noyaux. Et on ne pouvait pas le faire et on pensait même que ça serait impossible chez l'homme pour des raisons qu'on ne comprenait pas, mais qui étaient probablement liées à la physiologie humaine. En fait, en 2013, deux équipes ont réussi à trouver les conditions techniques pour arriver à faire ce transfert somatique avec des cellules à noyau humain et obtenir un démarrage de ce qui ressemble à un embryon, mais qui n'est plus le produit d'une fécondation, hein, qui est juste le produit du transfert d'un noyau adulte dans un ovocyte énucléé. Et le cytoplasme de l'ovocyte, donc les facteurs qui sont dans le cytoplasme de l'ovocyte, vont reprogrammer le noyau pour lui faire retrouver des conditions embryonnaires telles qu'on a le redémarrage de ce processus et on peut ici prélever la masse cellulaire interne. Alors ça pose d'autres problèmes éthiques parce que quand on pense qu'on a résolu les problèmes éthiques, on tombe sur d'autres. Et en particulier, c'était l'objet central de la fraude de Wang en Corée, d'où viennent les ovocytes qu'on va chercher, qu'on va avoir besoin de prendre pour les énucléer. Là, vous avez un schéma qui est assez simple. Hein. Vous avez une cellule et puis à la fin, vous avez un embryon. Quand Wang avait publié son papier frauduleux dans Science, il avait utilisé 761 ovocytes. Quand vous pensez que même après une superovulation induite par différents traitements, une femme va être capable de produire entre 10 et 20 ovocytes pour en avoir 761, pour réussir, disait-il, et c'était frauduleux encore à l'époque, une reprogrammation. C'est quelque chose qui est envisageable dans un laboratoire. Et encore, franchement, comment on traite les femmes qui offriraient ces ovocytes, mais qui, dans l'état actuel de la technologie, ne sont pas envisageables, même si les derniers résultats ont permis d'améliorer d'un facteur presque 100 l'efficacité de cette stratégie. Comme quoi, vous voyez, des fois, pour résoudre certains problèmes éthiques qui méritent réflexion, mais on en crée d'autres qui sont encore plus graves. Et puis, on arrive sur le travail déjà évoqué par Bernard Meunier des cellules souches pluripotentes induites. Donc là, on prend des cellules de peau, ce qu'on appelle les fibroblastes, on peut prendre d'autres cellules, et grâce à un cocktail de ce qu'on appelle des facteurs de transcription, ce sont des molécules qui dirigent l'expression des gènes à des étapes embryonnaires. Donc Yamanaka a fait un premier cocktail de 4, mais depuis, il y a de nombreux cocktails qui ont été trouvés. On arrive à revenir, depuis une cellule adulte, vers une cellule indifférenciée, embryonnaire. Alors on a eu de la chance, hein, parce que le système de Yamanaka s'est arrêté à la cellule pluripotente. Vous imaginez les débats éthiques si le même cocktail avait produit une cellule totipotente. Pluripotente, ça veut dire qu'elle est capable de produire toutes les cellules de l'organisme, mais pas les cellules des annexes. Ceci étant dit, et on y reviendra à la fin si j'ai un peu de temps, on a, pour démontrer que ces cellules étaient pluripotentes, procédé au même test que pour les cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle la complémentation tétraploïde. On a fait fusionner deux ovocytes. C'est plutôt la cellule, l'ovocyte, c'est cette cellule-là. On fait fusionner deux ovocytes, ça donne un démarrage de production. Hop, un démarrage ici de production d'un embryon, mais qui est tétraploïde et qui ne peut pas aller plus loin que ça, parce que les cellules tétraploïdes qui sont là ne peuvent pas se développer en un organisme. Et là, maintenant, dans cette masse cellulaire interne tétraploïde, vous injectez vos cellules ou des cellules souches embryonnaires ou des cellules souches IPS pour démontrer leur pluripotence. Et là, en tout cas chez l'animal, en tout cas, dans les premières étapes pour des cellules humaines, ça a été fait. On a pu voir que tous les types cellulaires étaient produits. Donc, ça veut dire que dans la potentialité de reconstituer un organisme, si, entre guillemets, l'utérus artificiel existait, les cellules pluripotentes induites présenteraient les problèmes éthiques très similaires aux cellules souches embryonnaires elles-mêmes. Alors, de façon incroyable, en moins de 10 ans, on a été capable, enfin les Japonais ont été capables de produire des cellules IPS de grade thérapeutique. Et en septembre dernier, le 12 septembre dernier, une patiente de 70 ans qui souffrait d'une dégénérescence maculaire de la rétine, donc une DMLA, a été traitée par le docteur Takahashi à l'Institut Riken. Et c'est le premier cas où on est passé d'une cellule de peau à une cellule IPS, puis une cellule induite à la différenciation en épithélium pigmentaire pour essayer de traiter une patiente. Et donc, maintenant, il y a un essai clinique qui va être lancé sur toute une série de patients dans différents cas de dégénérescence de l'épithélium pigmentaire lié à des maladies génétiques. Et on saura qu'est-ce qui va se passer. Alors, est-ce que c'est la fin de l'histoire? Est-ce que les choses sont si simples que ça? Et est-ce que ça y est, nous avons enfin notre Graal et on va pouvoir passer à la thérapie régénérative, à la médecine régénérative, sans aucun souci? Malheureusement, je vais vous montrer que la réponse est non. Et je vais vous montrer que la réponse est non en partant d'une maladie dramatique qui est celle que je soigne à l'hôpital et que sont les tumeurs cérébrales. Alors, les tumeurs cérébrales, ça se présente comme ça. Là, vous avez la tumeur la plus grave, c'est un glioblastome. Vous voyez tout de suite que c'est extrêmement hétérogène. Vous voyez qu'ici, il y a de la nécrose, ça va être très acide. Ici, vous avez le front de la tumeur qui prend le contraste. Ici, vous avez des cellules isolées dans le parenchyme cérébral. Alors, pourquoi on s'est intéressé à ça, en dehors du fait que je suis médecin et qu'il faut bien soigner les gens? Parce que normalement, on ne devrait pas faire de tumeur dans le système nerveux. Je vous ai dit tout à l'heure que les cellules se renouvelaient, les cellules nerveuses, que ce soit les neurones, les cellules gliales, ne se renouvellent pas. même si on a 100 km de vaisseaux dans le système nerveux, 100 km, je ne me trompe pas sur les chiffres, ce sont des cellules qui se renouvellent très peu, puis ce n'est pas des tumeurs vasculaires. Le système nerveux, il est extrêmement bien protégé. Vous avez la boîte crânienne. Qui d'entre vous ne s'est pas entendu dire de ses parents ou a dit à ses enfants « tu as la tête dure ». C'est protégé par des enveloppes. Vous avez ici les méninges. C'est protégé du reste de l'organisme par une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est un filtre qui protège le système nerveux de différents toxiques ou de différentes molécules chimiques. Alors comment, dans ces conditions, arrive-t-on à faire des tumeurs dans le système nerveux et des tumeurs qui sont seulement 7 fois moins fréquentes que les tumeurs du côlon, seulement 7 fois moins fréquentes, alors que je vous ai dit 10 000 cellules d'un côté, 1 million de milliards de cellules de l'autre côté, et des tumeurs qui sont la deuxième cause de mortalité par cancer chez l'enfant, la quatrième cause de mortalité par cancer chez l'adulte. Donc, on s'est intéressé aux cellules les plus nombreuses du système nerveux, qui sont des cellules gliales. À côté des neurones, les neurones ne sont qu'un tiers à peu près de votre cerveau. Le reste de votre cerveau, ce sont des cellules gliales à côté des vaisseaux. Et parmi ces cellules gliales, les astrocytes sont la principale population et remplissent de toutes les fonctions que vous pouvez imaginer pour permettre à votre cerveau de fonctionner. Mais aujourd'hui, on va juste se focaliser sur une fonction désagréable qui est leur capacité, même quand elles sont adultes, et là, vous avez des astrocytes pris à partir d'une biopsie d'un patient, des astrocytes adultes, eh bien, en les exposant à un facteur de croissance qui s'appelle le tumor growth factor alpha pendant plusieurs jours. Alors, pourquoi on s'était intéressé à ce facteur? C'est parce qu'il est surexprimé dans toutes les tumeurs. Alors, on s'est dit, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il fait. Eh bien, vous voyez que progressivement, les cellules perdent leur forme, acquièrent des formes et des propriétés, je vais passer sur les détails techniques, qui sont celles des progéniteurs, et même, au bout de quelques mois, deviennent des cellules souches. Vous avez à l'intérieur du système nerveux une capacité de plasticité qui fait que des cellules adultes peuvent redevenir souches. Alors, on les a greffées, et heureusement pour nous, non seulement, bon, c'est bien, elles survivent, elles peuvent donner des nouveaux neurones, et ça pourrait devenir une stratégie de thérapie cellulaire, c'est à l'étude dans certains laboratoires, mais elles ne donnent pas de tumeur. Par contre, si on leur applique un stress génotoxique, par exemple ici une irradiation, on voit qu'elles s'immortalisent immédiatement et là, elles donnent des tumeurs extrêmement agressives. Alors, ça a été répété, cette expérience in vivo avec des souris transgéniques, ça a été répété dans différents laboratoires. L'une des choses qu'il faut tirer de ça, c'est qu'en exposant des cellules à un facteur qui est surexprimé naturellement dans le système nerveux, qui est un facteur de croissance, on arrive à reprogrammer les cellules et à les rendre sensibles à une transformation tumorale. Une des choses qui est importante, c'est qu'on considère toujours le cancer comme une maladie génétique, une maladie de l'instabilité génétique. Ce qu'elle est, on trouve toujours un certain nombre de mutations dans les cancers. Ce qu'on voit ici, c'est qu'une modification qui est strictement épigénétique. Nous avons vérifié par séquençage que les cellules qui avaient été reprogrammées n'ont pas de modification génétique, en tout cas à l'échelle de ce qu'on a pu voir. On reparlera tout à l'heure de cette instabilité génétique et des risques pour les traitements. Mais là, on est avec une modification épigénétique qui remplace la prémutation des cancers, mais qui sensibilise à la transformation tumorale. Vous commencez à voir où je veux en arriver par rapport aux inquiétudes qui, légitimement, vont être posées quand on prépare des essais de thérapie cellulaire par rapport à des personnes qu'il va falloir soigner mais qui vont porter les cellules reprogrammées ou les cellules souches embryonnaires différenciées pendant différentes années exposées à différents toxiques, depuis les brûlures du soleil à l'extérieur jusqu'à différents composants de notre microbiome au niveau digestif. Alors, en allant plus loin, je vais essayer d'accélérer un petit peu, on s'est posé la question de savoir si ça pouvait être l'origine de cellules qu'on trouve au sein des tumeurs et qu'on appelle les cellules souches cancéreuses. C'est quoi les cellules souches cancéreuses ? Bien, c'est des cellules qui ont toutes les propriétés des cellules souches normales. Elles vont être capables de maintenir un pool de cellules souches. Elles vont être capables de se multiplier de façon clonale. Une cellule, ça n'aime pas être toute seule, sauf les cellules souches qui sont capables de se multiplier même toutes seules. Les cellules souches cancéreuses, c'est pareil. Et elles représentent excusez-moi, une toute petite fraction des cellules cancéreuses, moins d'un pour 10 000. Et puis, elles sont capables de constituer un organe. Et là, en l'occurrence, de reconstituer la tumeur. Merci beaucoup. Et puis, ces cellules, elles ont encore une autre propriété, c'est que ce sont les cellules qui sont résistantes à la thérapeutique. Je vais vous montrer à quoi ça peut nous servir. Et donc, nous, on voulait savoir si c'était l'origine de la tumeur. Il faut savoir que dans le cancer, on est longtemps resté sur une vision anarchique de la tumeur. On sait aujourd'hui que ce n'est pas du tout le cas. La tumeur, ce n'est pas une anarchie. Sinon, ça fait longtemps qu'on aura réglé le problème du cancer. C'est au contraire quelque chose de très organisé dans lequel les cellules souches occupent, en tout cas dans une première approche, une sorte de sommet d'une pyramide hiérarchique. Et ce sont uniquement ces cellules souches qui vont produire les métastases ou qui vont produire les récurrences de la tumeur. Donc les identifier, les cibler, permettrait d'avoir des stratégies permettant de faire dégénérer la tumeur, alors qu'aujourd'hui, on voit les tumeurs régresser dans de nombreux cas avec nos chimiothérapies, mais comme ces cellules sont résistantes à tous les traitements, eh bien ça ne sert pas malheureusement à grand-chose parce qu'on va avoir une récurrence de la tumeur à cause du maintien du pool de cellules souches. Alors, je vais passer sur cette diapositive et les suivantes pour vous dire que oui, on est capable d'identifier ces cellules, on est capable de les greffer et de les reproduire. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces cellules souches n'étaient pas l'origine de la tumeur, mais plutôt l'aboutissement. C'est les cellules les plus agressives et les plus malignes. Et vous voyez ici, par exemple, chez les enfants, que plus vous avez de cellules souches tumorales, et malheureusement, plus le pronostic est péjoratif et ces enfants meurent, qui ont beaucoup de cellules souches tumorales dans leur tumeur, meurent très rapidement. Alors, on s'est très vite rendu compte que le fait d'être une cellule souche tumorale, c'est une propriété, ce n'est pas une caractéristique. Vous voyez, par exemple, ici, dans le système nerveux, la comparaison génétique du transcriptome, la comparaison du transcriptome de cellules souches issues de tumeurs pédiatriques de haut grade et de cellules souches issues de tumeurs de l'adulte. Et vous voyez que le profil transcriptionnel est tout à fait différent. Là, on a des cellules souches neurales normales fœtales qui sont un peu plus près des pédiatriques, mais enfin, ce n'est pas le sujet. Alors, le fait de disposer de ces cellules, ça nous permet déjà une première approche thérapeutique et qui est très importante pour les biotechs. Ça va nous permettre de cribler des nouvelles molécules d'intérêt thérapeutique. Et tout à l'heure, Bernard prenait l'exemple du fumarate. Eh bien, nous, on a fait un peu la même chose avec la Chimiothèque nationale. On a criblé des molécules existantes pour chercher de nouveaux effets de molécules qui existent déjà dans le commerce et dont les brevets sont déjà expirés. Donc, il y a une Chimiothèque nationale qui permet de faire ça. Et je vous montre que c'est possible. Un vieil inhibiteur d'un récepteur alpha qui est utilisé, enfin, qui est tellement utilisé depuis 40 ans dans l'hypertension qu'il n'est plus utilisé, c'est le prazosin, ça s'appelle mini-presse dans le commerce, ça doit valoir 2 euros la boîte. Eh bien, contrairement aux chimiothérapies aujourd'hui utilisées qui valent 1000 euros par traitement et dont vous voyez la redoutable inefficacité sur ces cellules, eh bien, ici, cette molécule, en tout cas in vitro, est capable de détruire des cellules avec une efficacité au moins de 50%, sans affecter des cellules souches normales qui sont utilisées en comparaison. Et on va, je l'espère, enfin l'article est aujourd'hui en aller-retour avec un grand journal de cancérologie, j'espère qu'on va pouvoir avancer ensuite sur l'utilisation chez des patients de cette molécule. Ce que ça permet aussi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces cellules souches cancéreuses sont souches. Alors, pourquoi je veux vous montrer ça? Ben, je vais vous montrer qu'on peut identifier par des techniques de protéomique, ce n'est pas très important, des molécules nouvelles exprimées par ces cellules souches tumorales. On va voir avec le HDGF. Cette cellule, vous voyez qu'en comparaison de cellules normales, elle n'est exprimée que par les cellules souches tumorales et qu'elle est sécrétée uniquement par ces cellules souches tumorales. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle attire des cellules, des vaisseaux. Et vous voyez qu'entre les conditions où on laisse s'exprimer le facteur et des conditions où, grâce au siRNA dont a parlé tout à l'heure Bernard Meunier, on supprime l'expression de ce facteur, dans un cas, on a les vaisseaux qui permettent la croissance de la tumeur. Dans l'autre cas, on a la disparition de ces vaisseaux et on n'a plus de croissance de tumeur. Et ce sont des vrais vaisseaux. Alors, tout ça pour vous dire qu'on croit toujours que les choses sont simples et malheureusement, heureusement, sinon on ne serait probablement pas là, mais malheureusement, elles ne le sont pas. Pour faire un vaisseau, il ne suffit pas d'une molécule. Il faut des molécules et il y a différentes étapes pour faire un vaisseau. Et à ces différentes étapes, il y a une balance de différentes molécules qui sont mises en jeu. Et ça, ça veut dire que, contrairement à cette vision anarchique que je vous montrais tout à l'heure, il y a un dialogue permanent entre les cellules de la tumeur et leur micro-environnement, en particulier les cellules des vaisseaux. Et elles échangent un certain nombre de molécules qu'on est en train d'identifier, nous et d'autres, évidemment. Tout ça pour dire que quand on utilise en clinique, ça c'est des images prises d'un de mes patients à la Salpêtrière, des molécules extrêmement efficaces. Vous voyez ici une molécule qui agit contre le VEGF dont Bernard Meunier a parlé tout à l'heure. Vous voyez que ça c'est avant le traitement, ça c'est quelques jours, quelques semaines après le traitement. Vous voyez que la tumeur ici a régressé de façon spectaculaire. Et l'effet thérapeutique a pu être observé pendant environ 8 mois. Et on utilise aujourd'hui classiquement cette thérapie anti-VEGF. Malheureusement, on n'arrive pas à guérir les patients avec ça, parce que si dans une partie de la tumeur, on arrive à rétablir les choses et à corriger la tumeur, dans une autre partie, on a des phénomènes d'hypoxie qui font qu'on rend les cellules encore plus agressives qu'elles ne l'étaient avant. Et on se rend compte qu'en fait, on est face à une hétérogénéité des tissus, et vous vous rappelez mon image tout à l'heure, on a des zones où les cellules sont finalement assez douillettes, assez confortables, juste au contact des vaisseaux, bien oxygénées, et puis finalement, ce sont les cellules qu'on arrive à atteindre grâce à nos médicaments actuels ou grâce à la radiothérapie, parce qu'elles sont très sensibles, parce qu'il y a beaucoup d'oxygène à côté. Mais quid de ces cellules qui sont au contact de la nécrose dans un environnement particulièrement hypoxique, particulièrement acide, particulièrement privé en oxygène? Celles-là, elles sont complètement protégées et elles sont dans une autre configuration. Et puis, vous avez d'autres fronts de niche quand les cellules migrent pour essayer d'aller se réfugier ailleurs. On rentre dans une notion de complexité qui est la réalité de la maladie tumorale et qui doit être analysée si on veut arriver à faire des progrès. Et faire des progrès, c'est comprendre ce micro-environnement et comprendre le contexte dans lequel une cellule souche peut être souche, peut dialoguer avec son environnement, peut devenir une cellule différenciée. C'est ce qu'on fait, par exemple, ici, dans un exemple in vitro, en rajoutant du sérum. Et le sérum de veau fœtal contient des facteurs qui font perdre les propriétés souches. C'est quelque chose de connu. Quand on prend des cellules neurales, on arrive à les transformer, à les induire à se différencier en cellules qui ressemblent à des neurones. Donc, on est content. Si maintenant, on retire les facteurs du sérum et qu'on revient à un milieu minimal, ces cellules meurent. Ce n'est pas du tout le cas avec des cellules tumorales qui sont capables d'aller de l'état souche vers l'état pseudo-différencié des cellules tumorales, mais de revenir vers l'état souche. Alors, puisque Bernard a parlé de micro-RNA, on va rester dans les micro-RNA. C'est un mode de régulation intéressant et donc on a criblé pour des molécules qui vont être exprimées différemment selon que la cellule est souche ou non souche. Et vous voyez que l'expression d'un groupe de ces micro-RNA suffit à faire perdre les caractéristiques souches de la tumeur. Ici, vous greffez la tumeur, elle pousse. Ici, vous faites exprimer les micro-RNA, elle ne pousse plus. Ça serait éventuellement, si on était capable de diriger l'expression de ce groupe de micro-RNA, un mode de stratégie thérapeutique. Et ça, c'est lié à la perte d'un certain nombre de signalisations à l'intérieur de la cellule. C'est là où je veux en venir. Malheureusement, il y a des micro-RNA qui peuvent faire regagner le caractère souche. Si on l'a fait perdre d'un côté, il y a d'autres régulations qui peuvent le faire regagner. Mais surtout, qu'il y a une intrication entre des facteurs génétiques, je viens de vous en montrer certains, en tout cas épigénétiques, le métabolisme, les micro-RNA, le réseau de gènes qu'ils contrôlent, le métabolisme de la cellule, et puis ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, c'est-à-dire les facteurs qui régulent l'expression des gènes. Je vous l'illustre ici avec le fait que ces micro-RNA changent un certain nombre de métabolites et que ces métabolites, à leur tour, influent sur l'expression d'un certain nombre de facteurs de croissance, de transcription, pardon, du cocktail de Yamanaka, ici le facteur qui s'appelle Nanog, et en changeant cela, change l'état de, entre guillemets, souchitude de ces cellules. Alors, je vais sauter cette question, mais... Oui, je vais sauter pour en arriver aux questions pratiques et éthiques. Pourquoi je vous ai raconté tout ça? Bon, un petit peu pour vous montrer que on allait avoir une petite discussion éthique, mais que derrière ça, il y a des gens, il y a des laboratoires. Je vous présenterai mes collaborateurs dans la dernière diapositive. Mais ça s'appuie sur un travail expérimental fascinant, excitant, avec des nouvelles choses, mais que ce n'est pas juste des discussions. Le problème qu'il faut se poser, c'est qu'un certain nombre de gens, pour des critères éthiques, voudraient opposer les cellules souches somatiques, adultes, aux cellules embryonnaires, en disant, puisqu'on a des cellules souches dans nos organes adultes, qu'est-ce que vous avez à aller chercher des embryons et à nous embêter et à être des monstres qui nous privaient de tous les mozards possibles de la Terre? En fait, je vous ai montré qu'un des problèmes fondamentaux, c'est le problème de la disponibilité de ces cellules, de leur capacité de survie. Les cellules embryonnaires ont des capacités de se faire à leur milieu, de se faire à leur micro-environnement, autrement plus sophistiquées, autrement plus importantes que les cellules adultes. Et puis, on n'a pas parlé du problème de l'immunogénicité. Vous savez que toutes les greffes nécessitent une compatibilité pour le transfert de greffe. Les cellules adultes sont toujours beaucoup plus immunogènes que les cellules embryonnaires. La deuxième question, c'est les mêmes ou quelques autres ont essayé d'opposer les cellules souches embryonnaires aux cellules souches pluripotentes induites en disant, ben voilà, maintenant qu'on a les souches pluripotentes induites, il n'y a plus besoin d'avoir des cellules souches embryonnaires. C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Effectivement, on est capable de former des tumeurs dans un cas comme dans l'autre, ce qu'on appelle les tératomes. Effectivement, la démonstration que ces cellules sont pluripotentes procède de l'expérience de complémentation tétraploïde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais si vous commencez à regarder les marques sur le génome de ces cellules, ce qu'on appelle l'épigénétique, on va dire rapidement qu'on a deux sortes de marques épigénétiques. Certaines qui sont directement sur l'ADN sont des méthylations qui permettent de bloquer ou d'augmenter la capacité d'exprimer un gène. Et puis d'autres marques qui sont sur des protéines qu'on appelle les histones, le ruban d'ADN que vous avez dans chacune de vos cellules, qui fait un mètre de long, il n'est pas juste emmêlé comme ça, il est enroulé de façon extrêmement organisée autour de molécules qui s'appellent des histones, qui sont un peu comme des plots de l'ADN. Et ces histones vont permettre, un peu comme un accordéon, d'ouvrir ou de fermer l'ADN. Et on connaît plus de 50 marques épigénétiques maintenant sur ces histones qui vont permettre plus ou moins d'ouvrir, plus ou moins de rendre permissif l'expression des gènes. Eh bien, si on compare les ES aux IPS induites dans les mêmes conditions, eh bien, on voit que le paysage épigénétique est radicalement différent. Alors, à partir de là, il y a des choses que les unes permettent mieux que les autres. Par exemple, la modélisation des maladies humaines. Je vous ai montré tout à l'heure, avec l'exemple du DPI, que les ES sont vraiment le bon modèle pour modéliser certaines maladies humaines, quand elles sont d'origine génétique. Par contre, les IPS vont être des bons modèles pour essayer de mieux modéliser des maladies qui sont plutôt d'origine épigénétique, liées aux événements de la vie, liées au contexte dans lequel une cellule s'est développée et a pu accumuler des choses. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que les IPS, on les reprogramme, c'est formidable, mais qu'elles semblent garder au niveau épigénétique les marques de l'âge qu'elles avaient avant d'être reprogrammées. On efface tout, mais on n'efface pas tout à fait tout. Il a été possible, et c'est une équipe française à Montpellier qui l'a fait, de reprogrammer en IPS des cellules souches, des cellules de peau d'une centenaire. Elle n'avait que 97 ans. On dit toujours qu'elle était une centenaire. Mais avec non pas 4, mais 6 facteurs du cocktail équivalent à Yamanaka, il a été possible d'obtenir des cellules pluripotentes à partir de cette centenaire. Mais quand on regardait des marques épigénétiques correspondant à des marques qui avaient été accumulées sur les fibroblastes de cette patiente, on en a retrouvé certaines dans les cellules pluripotentes. Donc, la potentialité de ces cellules et leur capacité de donner des cellules propres à la thérapie génique est posée. Et donc, je vous ai mis 3 grandes questions, qui sont les 3 grandes questions sur lesquelles on va s'arrêter. Le problème de la sécurité. On a parlé déjà tout à l'heure, monsieur, de la pureté, de l'homogénéité. Alors, c'est la pureté au moment des préparations. Est-ce qu'on est vraiment capable, à partir de 100 cellules indifférenciées, de produire 100 cellules différenciées ? Je vous ai parlé de la capacité de trier les cellules. Ça, c'est bien quand elles sont indifférenciées. On peut les trier, les CD34, c'est très facile à trier. Les cellules qui sont rondes et qui passent très bien dans un trieur de cellules, ça va. Si vous induisez les cellules pour être des cellules souches neurales, donc qui commencent à coller au fond de la boîte, avoir des branchements, là, si vous essayez de les trier, vous les tuez. Donc la question de l'homogénéité de la préparation, elle est importante. L'homogénéité de la préparation dans le tube à essai, mais quid de l'homogénéité dès qu'on va les faire rencontrer un micro-environnement qui est différent du micro-environnement du tube à essai, c'est-à-dire le micro-environnement du patient. Et non pas seulement le micro-environnement du patient le jour de l'opération, le jour de la greffe, mais le micro-environnement du patient fonctionnel, c'est-à-dire dans les jours, les semaines, les mois qui vont suivre. Le statut immunitaire. Alors en fait, on a longtemps pensé que parce que les IPS, on prenait une cellule d'une personne et qu'on remettait cette cellule à la même personne, c'est vraiment l'archétype de la médecine personnalisée, eh bien, il n'y avait plus de problème immunitaire, puisqu'on partait du patient et on revenait au patient. Donc on n'avait plus de problème de compatibilité. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Soit le processus de reprogrammation, soit le fait que la cellule se soit développée dans le tissu et qu'on l'extrait de ce tissu, fait que les cellules pluripotentes induites différenciées réacquièrent un statut immunitaire. Heureusement faible, mais il va quand même falloir donner des anti-inflammatoires ou des immunosuppresseurs aux patients dans l'état actuel de nos connaissances. Et puis, ce que j'ai cherché à vous illustrer en vous montrant les risques de la reprogrammation dans le cas d'une pathologie, elle, bien réelle, c'est le problème de la transformation tumorale. Et c'est pour cela que le premier essai clinique d'IPS, il est fait dans une maladie de l'œil, parce qu'on va pouvoir, au laser, détruire les cellules si une tumeur apparaissait dans l'œil de la patiente. Et puis, je vous ai parlé des marques épigénétiques et des questions liées à l'âge. Ça remet en question ce mythe prométhéen de l'immortalité, qu'on serait toujours capable, à partir des mêmes cellules, finalement, de refaire des cellules naïves qui seraient reparties à zéro, probablement pas dans l'état actuel des connaissances. La question de l'efficacité, donc c'est la question de la stabilité du phénotype, c'est la question de nos techniques. Et puis, on revient sur la question de l'accessibilité. Parce que vous imaginez que produire des cellules à la demande pour chaque patient, je fais un accident vasculaire cérébral, on me prend une cellule de peau, on la reprogramme et on m'en fait des cellules potentiellement neurales ou pour une maladie de Parkinson qu'on va me réinjecter à moi-même. Ce sont des traitements qui, quel que soit le contexte, à cause de l'encadrement réglementaire qu'il va falloir mettre en place, comment est-ce qu'on va contrôler les lots pour chaque patient, comment on va faire que chaque procédé soit efficace et soit testé, il va falloir des coûts et des délais et des infrastructures extrêmement importantes. un détail, mais qui n'en est pas un dans certains contextes, à qui appartient la propriété industrielle ou intellectuelle. Ce qu'on pense aujourd'hui pour essayer de rendre les choses crédibles en termes thérapeutiques, c'est de faire des banques de cellules, c'est-à-dire de partir soit du sang, du cordon des personnes, qu'on pourrait garder et ensuite reprendre en IPS et retransformer, soit en produisant des banques comme pour les banques de sang, pour une population comme la population française, 60 000 haplotypes représenteraient, couvriraient à peu près les besoins de 95 % de la population. Donc, on pourrait avoir des banques de cellules, mais dans ces banques de cellules, les cellules qui auraient été utilisées pour faire les IPS, est-ce qu'ils appartiendraient à la banque publique ou est-ce qu'ils appartiendraient encore aux patients dont ils ont été dérivés? Je conclurai en disant que ça pose les questions d'une sécurité, d'un encadrement qui, sans efficacité, ne serait que du gaspillage, d'une efficacité qui, sans la sûreté, poserait le problème de savoir qu'est-ce que c'est que le consentement éclairé et qui se prêterait aux essais thérapeutiques de méthodes si peu sûres, et puis la question de la justice sociale que pose l'accessibilité. Et en remerciant les membres de mon équipe et nos financeurs, je vous remercie de m'avoir écouté.